Merci, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup surtout de cette invitation. Je crois que, je suis sûre que c'est le cas de Jean-Louis aussi, on est très, très honorés d'être ici, d'avoir l'occasion de discuter avec vous de cet ouvrage, effectivement publié en 2016 au Seuil et qui va d'ailleurs paraître en anglais bientôt, au printemps. Alors, dans cet ouvrage, nous sommes partis du constat qu'au fond, le primat qui est donné aux droits individuels dans nos cultures politiques fait désormais l'objet de sérieuses résistances, tant dans le débat public que dans la pensée politique contemporaine. Je dirais que là, les choses, par rapport au moment où nous avons commencé ces projets de recherche, il y a déjà quelques années, les choses ont d'ailleurs évolué, puisque ces résistances sont de plus en plus présentes dans l'espace public. Et donc, il nous a semblé que selon un discours diffus, la prolifération supposée des droits, qui s'apparenterait à une croissance non maîtrisée des désirs, précipiterait aujourd'hui nos démocraties dans une logique de revendication infuse. Et parmi les griefs avancés à l'encontre du langage des droits de l'homme, on rencontre pêle-mêle une dénonciation du narcissisme de l'individu, une insistance sur les risques d'atomisation sociale, un rappel des exigences et des contraintes liées à l'appartenance à une communauté sociale, familiale ou politique. Ou encore des attaques contre le caractère hypocrite de notre révérence affichée aux droits de l'homme. Au point qu'on en est parfois presque à se demander si on n'est pas en train d'assister à une sorte de retour de bâton contre un vocable des droits de l'homme qui est accusé au fond de s'émanciper des limites nécessaires à l'existence d'un corps politique. Donc ça c'était l'étonnement, le constat de départ. Et pour présenter ce livre, nous allons procéder en trois temps assez bref, pour ne pas empiéter sur la discussion. Je vais d'abord dresser un panorama rapide des critiques adressées au primat des droits de l'homme dans la pensée politique contemporaine, panorama destiné à ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage. Puis Jean-Yves va nous exposer notre méthode et dessiner les grandes lignes de l'ouvrage. Et puis je reprendrai la parole pour montrer comment nous esquissons à partir de Naharen les contours d'une conception politique des droits de l'homme. Donc tout d'abord, les critiques des droits de l'homme dans la pensée contemporaine. Alors comme je le disais, ce projet de recherche, il est parti du constat que ce langage des droits de l'homme suscite de sérieuses controverses dans la philosophie politique, qu'elle soit française ou nord-américaine ou britannique. Alors bien sûr, vous me direz tout de suite que très rares sont les penseurs du politique, ils existent, mais enfin ils sont rares, qui assument un rejet des droits de l'homme en tant que tel, c'est-à-dire du corpus normatif et législatif sur lequel reposent les états de droit démocratiques. Mais en revanche, l'usage qui serait fait des droits de l'homme dans les démocraties suscite de vives critiques. Et donc des courants de pensée que tout distingue par ailleurs convergent pour estimer que cette place conférée au langage des droits de l'homme risquerait de corrode, mine l'idée démocratique. Et plus précisément, dans l'ouvrage, nous avons distingué entre trois grands courants. D'abord, une critique qu'on pourrait dire anti-moderne, qui est désormais assez marginale et très hétérogène, puisqu'on y trouve des gens extrêmement différents, tels que le partisan d'une forme d'orthodoxie radicale, tel que John Milbank, a une pensée païenne comme celle d'Alain Benoît. Donc critique anti-moderne qui se signale par son rejet des déclarations du XVIIIe siècle et au-delà par l'idée même d'un droit subjectif. Donc le droit subjectif qui n'est pour ses auteurs qu'une perversion du concept même de droit. Ensuite, beaucoup plus important pour notre sujet, nous identifions une critique communautaire très hétérogène également, mais qui, elle, part du sein même de la modernité libérale pour pointer les effets délétères du primat qui serait conféré aux droits de l'homme dans nos démocraties contemporaines. Donc cette critique est très loin de rejeter l'héritage des révolutions américaines et françaises, et ces critiques qui sont présentes aussi bien dans le monde anglophone que francophone, et parmi lesquelles on pourrait citer par exemple Marianne Glendon, Michael Sandel, Thomas Spengel ou encore Marcel Gauchet ou Pierre Manant, ces critiques soulignent au fond que nos droits humains ont perdu la dimension collective qui était la leur à l'origine. Le principal risque avancé ici est celui d'une déliaison sociale associée à une culture des droites décrite comme légaliste et absolutiste. En somme, la politique des droits aurait été portée trop loin au risque de miner le sens civique et de transformer les citoyens en détenteurs passifs et égoïstes de droits individuels. Et dans ses versions les plus radicales, cet argument oppose d'ailleurs deux idées des droits de l'homme qui n'auraient pas de rapport, sinon sémantique, entre eux. Les droits de l'homme classiques, ceux de 1789, qui matérialisent une figure de limite, et la nouvelle doctrine des droits de l'homme qui relèverait du registre de l'illimité. Enfin, dernière mouvance, une critique que nous appelons radicale, venue plutôt de la gauche, voire de l'extrême gauche, avec des auteurs à nouveau très différents, puisqu'on y trouve aussi bien Wendy Brown, David Kennedy, Kostas Douzinas, Marty Koskinimi, et alors dans un style peut-être plus proche de l'incantation, Alain Badiou, Slazov Zizek. Donc critique radicale qui s'inquiète au fond de la dimension idéologique, disciplinaire d'un discours des droits qui est perçu comme un des symptômes de notre renonciation aux promesses de l'émancipation. L'idée ici, c'est plutôt que l'exaltation des droits et des libertés privées ne serait qu'un moyen de distraire les citoyens d'injustices socio-économiques autrement plus importantes. Et donc c'est à partir de ce panorama d'ensemble que l'objet de l'ouvrage a justement été de s'interroger sur différentes figures prises par la critique des droits de l'homme depuis 1789.
Et donc nous étudions un procès. Mais nous ne faisons pas nous-mêmes un procès, c'est un point qu'il faut souligner. Nous dressons une cartographie et nous prenons position à la fin du livre pour nous situer dans notre carte et à cette fin pour situer notre carte elle-même et la soumettre à la discussion critique comme aujourd'hui. Alors, notre but n'était certainement pas de proposer un panorama exhaustif qui aurait demandé des milliers de pages. Ce n'était pas non plus d'établir une généalogie judiciaire où il se serait agi de stigmatiser des contemporains en procédant à une sorte de réduction à leurs ancêtres. Il s'agissait simplement de dresser les arrière-plans passés du débat contemporain et d'établir les types de critiques qui nous semblaient les plus cohérentes et les plus systématiques. C'est-à-dire, pour ainsi dire, qu'il s'agissait de fixer des couleurs fondamentales à partir desquelles se composent de riches et de vastes spectres historiques, des nuances et des couleurs intermédiaires. Nous avons décidé de nous concentrer sur des auteurs, spécifiquement, dont nous avons estimé qu'ils avaient en eux-mêmes valeur typologique. Alors, je ne vais pas entrer dans la description des auteurs, puisque nous manquons de temps, et je vais sauter directement à ce qui nous a semblé être la leçon typologique de l'étude historique que nous avons menée. Je prendrai pour cela non pas l'ordre chronologique que nous avons suivi dans le livre, mais un ordre typologique. Il nous a semblé qu'il y avait globalement quatre horizons de la critique, ou quatre intentions présentes dans les critiques des droits de l'homme. La première intention, c'est l'intention réactionnaire, ou plus exactement anti-moderne, c'est pourquoi elle a sa place dans le livre, de la contre-révolution radicale, telle que la représentent des auteurs comme Bonald et Maistre, qui refuse tout relâchement des liens du théologique et du politique. C'est une critique qui a ceci de remarquable, qu'elle s'oppose simultanément au libéralisme et à la démocratie, au nom de la nécessité d'une incarnation de la transcendance divine par un pouvoir bénéficiant d'une autorité absolue. Dans cette configuration, le droit divin de la hiérarchie s'oppose non seulement au projet de l'égalité des libertés, mais à l'idée même d'un droit de l'individu en tant que tel. Il y a ensuite, avons-nous cru discerner, une intention conservatrice, celle de l'historicisme jurisprudentialiste qui est incarné par Burke, qui fait une place considérable à des thèmes quasi-libéraux, je dis bien quasi, tels que ceux de la division des pouvoirs, du parlementarisme ou de l'ordre spontané de la société civile. Thème où se mêlent un individualisme modéré, qui est plutôt un pluralisme, et un organicisme fluctuant, associant liberté du marché et tissu communautaire des mœurs, d'une façon qui anticipe assez fortement le néoconservatisme contemporain. Le cœur de cette critique des droits de l'homme, c'est le refus de l'absolutisme démocratique et de toute idée de la souveraineté du peuple. La nécessité de limiter le pouvoir souverain ne peut ni ne doit donner lieu à la formulation de droits individuels intangibles, les limites morales du pouvoir, indiquées par une loi naturelle qui est une loi historique, ne sont pas les principes producteurs de l'ordre social. La troisième grande critique est animée par une volonté progressiste. Et on la retrouve dans deux formes d'utilitarisme qui sont très différentes sur leur premier plan, mais qui ont des points communs à l'arrière-plan. Donc l'utilitarisme libéral de Jeremy Bentham et l'utilitarisme social d'Auguste Comte. Alors ce progressisme s'accorde avec l'argumentaire traditionnaliste pour voir dans les droits de l'homme une menace pour l'ordre social, parce que leur caractère absolu en fait des alibis d'anarchie ou de violence et porte à l'absurde les revendications d'égalité et de liberté, hein, revendications qui se détruisent elles-mêmes dès lors qu'elles ne sont pas spécifiées par un rapport déterminé à la loi. Une des thèses communes à Bentham et à Comte est que le droit de propriété est incompatible avec l'égalité des droits pris absolument. Mais, à la différence du jurisprudentialisme, qui accorde au droit d'établissement et d'histoire la valeur d'un véritable droit naturel, l'utilitarisme refuse toute valeur à l'idée de droit naturel et nie que le passé puisse être source de droit. Un droit n'est que la conséquence d'une loi et l'utilité collective est la seule norme que doit connaître le législateur. Alors, l'utilité collective, comprise comme somme des utilités individuelles, comme chez Bentham, peut alors fonder contre les droits de l'homme la démocratie comme régime du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre possible. Comprise comme utilité proprement sociale, donc comme utilité du corps social et non pas comme agrégation des utilités individuelles, comme c'est le cas chez Auguste Comte, l'utilité collective rend possible, non pas la démocratie, mais une redéfinition de l'égalité à partir du principe de l'intégration sociale. Dernière grande matrice des critiques des droits de l'homme, le projet révolutionnaire de l'émancipation communiste que l'on trouve chez Marx et qui rompt avec les trois critiques précédentes en ce qu'il reproche aux droits de l'homme de sacraliser le droit de propriété alors que toutes les critiques précédentes reprochaient aux droits de l'homme de mettre en danger le droit de propriété. Donc ce n'est pas au nom de l'impossibilité ou des limites de la démocratie, mais bien en vertu de l'utopie d'une démocratie totale et mondiale que les droits de l'homme sont récusés, parce que la distinction de l'homme et du citoyen qui en est le cœur, selon Marx, et qui est séparable et qui est inséparable de la séparation de justice civile et de l'État, interdit que la société puisse tout entière relever d'une auto-organisation démocratique. Donc la critique des droits de l'homme ici ne pointe pas les limites de la liberté et de l'égalité, ou les tensions entre elles, elle participe au contraire d'une volonté de réalisation maximale de l'égalité des libertés et d'un refus d'en restreindre l'exercice par des conditions juridiques qui en prédétermineraient la signification. Ce que montrent maintenant ces différentes critiques, c'est d'une certaine façon que la critique tourne toujours autour de la question des rapports entre l'homme et le citoyen. Chez Burke, chez Bentham aussi, à bien des égards, l'objectif est de dépolitiser les droits de l'homme si on doit en reconnaître. Inversement, chez Marx et dans la tradition marxiste, la critique des droits de l'homme se fait au nom de l'idée que l'homme et le citoyen sont absolument inséparables. Alors, c'est ici qu'on arrive à ce qui est un des chapitres finalement conclusifs de l'ouvrage, puisque il y a une sorte de conclusion en trois temps, Schmitt, Arendt et un dernier chapitre. La difficulté qui surgit ici, c'est que faire des droits de l'homme s'il s'avère que la souveraineté du peuple que les droits de l'homme proclament ne peut pas être une souveraineté mondiale ou celle d'une citoyenneté, celle de celle universelle. Et ce qui se passe, c'est qu'alors, conformément à une interprétation possible de la déclaration de 89 et à ce qui s'est passé d'ailleurs dans la Révolution française, le peuple-nation peut absorber l'homme citoyen et il devient possible d'invoquer contre les droits de l'homme une idée nationaliste de la démocratie. C'est ce qui a bien exactement chez Carl Schmitt qui reprend à son compte l'idée de la souveraineté démocratique dans un certain nombre de textes des années 20. Nous nous sommes concentrés uniquement sur ce moment précis de la pensée de Carl Schmitt. Carl Schmitt change de position dans les années 30 et on ne peut pas assimiler ses positions des années 30 à ses positions des années 20, sans même parler de ses positions sur les grands espaces à partir des années 40. Donc c'est ce qui se passe chez Carl Schmitt, où l'idée de souveraineté populaire est identifiée à une communauté nationale qui est alors retournée contre l'idée des droits de l'homme comme idée apolitique des droits de l'humanité qui ne forment jamais, selon Carl Schmitt, un corps un corps politique. Je n'entre pas dans le Karl Schmitt, mais avec Karl Schmitt, nous atteignons, me semble-t-il, ce qui est finalement une sorte de point d'effondrement nationaliste des critiques des droits de l'homme que nous avons étudiées par ailleurs, tandis qu'avec Hannah Arendt, qui doit quelque chose à toutes ces critiques des droits de l'homme, nous atteignons au contraire un point de rebroussement immanent, si j'ose dire, dont Justine Lacroix va dire maintenant quelque chose.
Oui, donc, dans le dernier chapitre, donc, nous opérons un retour aux mouvements d'idées contemporains par une analyse de la fameuse formule du droit à avoir des droits formulée par Arendt. Et Arendt est parfois considérée comme une critique de l'abstraction des droits de l'homme proclamée à la fin du XVIIIe siècle. Selon certains interprètes, elle ne ferait d'ailleurs que reprendre ici les arguments du conservateur d'Edmund Burke contre le caractère métaphysique, c'est-à-dire coupé des réalités concrètes de la déclaration de 1789. Et à vrai dire, je veux dire que quand on a commencé le projet, cette interprétation était également plus ou moins la nôtre. Et finalement, Arendt a fini par occuper une place tout à fait carrefour dans l'ouvrage. Ce n'était pas du tout anticipé au début. Je crois que même Arendt n'était pas prévu, parce qu'il nous a semblé que sa critique servait aujourd'hui, pouvait alimenter deux critiques très différentes des droits de l'homme, enfin une certaine interprétation d'Arendt précisément, pouvait alimenter deux critiques très différentes des droits de l'homme. D'abord, une critique communautaire, selon laquelle il n'y aurait pas de droit qui vaille en dehors d'une collectivité politique déterminée, et puis une critique radicale qui déclare au contraire l'obsolescence des droits de l'homme. Donc elle peut alimenter ces deux critiques, alors qu'en réalité, elle ouvre plutôt la voie à une conception politique des droits susceptible de répondre à une partie du moins des griefs que nous avons identifiés dans l'ouvrage. Bon, là, notre interprétation d'Arendt s'appuie sur les travaux ouverts notamment par Étienne Balibar, Étienne Tassin, et puis un certain nombre d'analystes aussi dans le monde anglophone, qui ont montré qu'au fond, si Arendt refusait évidemment le paradigme du droit naturel, si elle refusait toute conception essentialiste des droits, elle insistait sur le fait que les droits étaient liés à la pluralité des hommes et que les droits existaient parce que nous habitons la Terre avec d'autres hommes, plus précisément que les droits de l'homme ont chez Arendt un caractère infondé, au sens où ils ne doivent pas être conçu comme une origine à retrouver ou à restaurer, mais plutôt comme une invention ou un commencement continué, que ce sont des conventions, des formes de reconnaissance, des artefacts fragiles de la vie en commun. Et donc, c'est en ce sens que, combiné à la pensée d'autres, telle celle de Claude Lefort, il nous semble qu'Arendt ouvre la voie à une conception politique des droits de l'homme. Alors, nous esquissons quelques pistes en conclusion donc, sur ce caractère politique des droits de l'homme, conclusion qui est plus programmatique, c'est aujourd'hui un projet de recherche auquel nous réfléchissons, et cette insistance sur le caractère politique des droits de l'homme nous conduit à entrer en résonance avec certains courants de pensée articulés autour de l'exigence d'une démocratie dite radicale, qui ont en commun au fond de penser les revendications de droits comme des pratiques performatives par lesquelles se constituent des communautés politiques fluctuantes, par nature fluctuantes. En même temps, et quelles que soient les sympathies que nous pouvons avoir pour ces courants de pensée, nous montrons qu'un certain nombre de penseurs de la démocratie dite radicale ou agonistique cèdent parfois la tentation de penser la citoyenneté politique uniquement sous le registre de l'agir politique, en la déconstruisant comme statut, et en négligeant quelque peu les supports institutionnels de l'autonomie. Et cette sorte de forme de confiance dans l'effervescence sociale et politique nous laisse quelque peu sceptiques en raison de son aphasie, de son silence sur la question de savoir comment constituer et réguler une démocratie au-delà des mouvements insurrectionnels. Et de plus, il nous semble que la sous-estimation de l'importance du statut juridique et de l'appartenance à un collectif stable n'est pas d'ailleurs entièrement fidèle à la pensée d'Arendt. Et donc c'est pourquoi nous esquissons donc trois nuances, enfin nous avançons trois nuances. Il nous semble qu'au-delà de la nécessaire insistance sur la praxis, une conception politique des droits de l'homme doit aussi intégrer ces trois conditions de l'autonomie que sont la personnalité juridique, l'existence d'une grammaire institutionnelle et la présence d'un monde commun. Mais comme je le disais, tout cela reste assez programmatique. Nous sommes en train de travailler sur ces différentes pistes pour l'instant. C'est pour ça que vos commentaires seront des plus précieux. Merci.